Chapitre 8. Un tournant social, politique et culturel. La France de 1974 à 1988. Cours 2. Une société en pleine mutation, 1974-1988. Cette période est marquée par de profondes réformes qui constituent autant de réponses aux revendications exprimées en mai 1968 et qui commencent avant l'alternance politique de 1981. La société française devient plus diverse et plus ouverte au changement. A. L'émancipation des femmes. Dans la société. Dans la lignée de mai 1968 et des mouvements de défense des minorités aux États-Unis, un féminisme radical se développe en France. Il dénonce la domination masculine dans une société patriarcale et affirme le droit des femmes à disposer librement de leur corps. En 1971, le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, encourage la publication d'un manifeste de 343 femmes avouant avoir avorté alors que la pratique reste interdite en France. Simone Veil, ministre de la Santé nommée par Valéry Giscard d'Estaing, fait adopter deux lois. En 1974, la pilule contraceptive est remboursée par la Sécurité sociale et en 1975, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Mais il faut attendre 1982 pour son remboursement par la Sécurité sociale. En 1975, une loi introduit le divorce par consentement mutuel et cesse de considérer l'adultère comme un délit pénal. Au travail. Si la part des femmes exerçant une activité professionnelle progresse de 53% en 1975 à 63% en 1982, les stéréotypes sexistes demeurent entre femmes et hommes dans la vie quotidienne. Les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes. Nommée ministre des Droits de la Femme par François Mitterrand, Yvette Roudy fait voter en 1983 une loi sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Cette loi ne se contente pas de poser le principe de l'égalité entre les sexes. Elle entend en garantir l'application en combattant les inégalités dont sont victimes les femmes dans les entreprises. Mais les résultats sont décevants. L'écart moyen entre les salaires masculins et féminins reste de 28,2% en 1989 et les femmes restent extrêmement minoritaires aux postes de direction. B. Les jeunes dans la société. La massification scolaire. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à rester dans le système scolaire au-delà de l'obligation scolaire portée de 14 à 16 ans en 1959. L'économie a besoin de salariés qualifiés, notamment pour les emplois tertiaires, et la société demande la démocratisation de l'enseignement secondaire et supérieur. En 1975, le ministre de l'Éducation nationale, René Haby, instaure le collège unique en supprimant les filières qui différenciaient les élèves relevant de l'enseignement technique ou de l'enseignement général. La mixité est alors rendue obligatoire dans toutes les filières. Avec cette massification scolaire, de plus en plus de jeunes obtiennent leur baccalauréat, 20% d'une génération en 1970, 30% en 1980, et accèdent à l'enseignement supérieur, plus d'un million d'étudiants en 1990. En 1986, Jacques Chirac veut imposer une plus grande sélection à l'université et la hausse des droits d'inscription, projet de loi Devaquet. Mais devant la mobilisation de la jeunesse, le projet est retiré. Un nouveau groupe social. L'allongement des études et l'entrée plus tardive dans la vie active contribuent à faire des jeunes une catégorie sociale mieux définie et plus étendue. Ils résident encore chez leurs parents, mais trouvent souvent la tutelle familiale et sociale pesante. Garçons et filles, autrefois éduqués séparément, affirment désormais ensemble leurs aspirations. Une culture jeune, souvent internationale, s'exprime à travers la mode et la musique et alimente un marché en pleine expansion depuis les années 1960. La crise de mai 1968 révèle la volonté de changement d'une partie de la jeunesse dans le monde entier. C'est pour prendre en compte ces évolutions que Valéry Giscard d'Estaing abaisse en 1974 la majorité civile de 21 à 18 ans. Cette mesure permet aux jeunes de 18 ans de disposer du droit de vote, de se marier sans l'autorisation parentale et de résider où ils veulent. Les jeunes constituent désormais un électorat plus important, courtisé par les différents partis politiques. C'est une diversité plus visible. Des immigrés devenus indésirables ? Largement sollicités par les entreprises françaises durant les Trente Glorieuses, les immigrés représentent environ 7,5% de la population en 1975. En juillet 1974, le gouvernement annonce la suspension officielle de l'immigration. Le regroupement familial, organisé par une loi de 1976 conformément au droit européen, est désormais la seule immigration légale. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 redonne de l'espoir à la population immigrée. Sur environ 300 000 clandestins, près de 132 000 sont régularisés. Mais une des promesses de campagne, le droit de vote des étrangers aux élections municipales, n'est finalement pas mise en œuvre. Dans les années 1980, dans un contexte de crise et de chômage, la percée électorale du Front National témoigne du rejet des immigrés et de leurs descendants par une partie de la société. En 1983, la Marche pour l'égalité contre le racisme, dite « Marche des beurs », est organisée dans un climat de xénophobie grandissante. L'affirmation des droits LGBT. En 1981, à la veille de l'élection présidentielle, la première Marche nationale pour les droits et les libertés des homosexuels et lesbiennes est organisée à Paris. En 1982, François Mitterrand met fin à la discrimination qui fixait la majorité sexuelle à 15 ans pour les hétérosexuels et à 21 ans pour les homosexuels. Beaucoup d'entre eux vivent cachés, exclus par leur famille, mais l'épidémie du sida qui décime dès 1983 en France la population homosexuelle les rend paradoxalement plus visibles dans la société, en raison de la couverture médiatique. Durant les années sida, des associations militent pour une meilleure prévention contre le VIH qui touche toutes les populations.